Vous écoutez, on lit pour vous.
L'ère des personnes synthétiques est commencée. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 19 février 2026 dans la presse. Depuis que l'IA est sur toutes les lèvres, bien des travailleurs se demandent s'ils vont perdre leur boulot. Dans le monde des focus group, ces petits groupes de personnes invitées à donner leur avis, la question ne se pose plus. Le remplacement de l'humain par des avatars est déjà chose faite. Le gain d'efficacité est vertigineux. Pendant des années, une entreprise qui hésitait entre deux couleurs d'emballage, trois slogans et quatre fragrances pour son nouveau produit, devait attendre des semaines pour prendre le pouls de sa clientèle cible. On réunissait des humains dans une pièce, on les questionnait, on les faisait réfléchir et développer leurs idées. Des experts compilaient ensuite l'information avant de pondre un beau rapport de 50 pages en couleur. En 2026, on ne lit plus un résumé. On interroge des personnes synthétiques. Restez chez vous, des consommateurs fictifs répondent à votre place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais demander un verre d'eau. On est rendu là. Ensemble, la firme Léger et Plus Compagnie, un regroupement d'agences créatives dont Cossette fait partie, a décidé de miser à fond sur cette façon virtuelle de découvrir les préférences et les opinions de la population. Leur nouvel outil est unique au Canada, clament-ils, puisque les cerveaux de leurs avatars sont remplis de données locales récoltées par la firme Léger ou d'autres organisations crédibles comme Statistique Canada. Cela rendrait les réponses plus crédibles et précises que celles générées par des firmes internationales de recherche, ChatGPT ou Gemini. Comme c'est le cas dans la vraie vie, les personnes synthétiques ne sont pas toutes pareilles. Chacune représente un segment de la population avec 12 000 degrés de nuance, pas seulement l'âge, le genre et le niveau socio-économique. J'ai eu droit à une démonstration. Une image présentant 10 pots de sauce à hamburger a été montrée à une femme d'environ 40 ans décrite comme une acheteuse rationnelle. La question : lequel de ces nouveaux produits seriez-vous le plus susceptible d'acheter et pourquoi ? Chipotle et érable, ail et parmesan, cornichons à la nette. C'était une marque fictive, mais elle aurait pu être réelle. La réponse est arrivée rapidement, argumentée et cohérente avec la personnalité du segment représenté. En focus group, dit le président de Léger, Jean-Marc Léger, le modérateur doit parfois travailler fort pour que les participants en viennent à mettre des mots justes sur le rationnel derrière leurs préférences spontanées. Pour savoir si l'outil, appelé Smart Persona, réfléchit adéquatement, Léger lui a reposé 100 questions qui avaient déjà été soumises à des humains lors de sondages. Les avatars ont obtenu 85% de réponses similaires, ce qui est jugé excellent pour prendre des décisions de marketing de tous les jours. De fait, les tests d'hallucination démontrent que, de 40 à 70 % des autres réponses générées par les intelligences artificielles génératives du moment, contiennent des données complètement inventées. Lors de décisions stratégiques d'envergure, la recherche classique reste encore la meilleure option, dit néanmoins Sarah Mottet, vice-présidente Transformation et IA, chez Léger. Si la nouvelle technologie tient ses promesses, elle pourrait devenir une alliée clé pour les entreprises qui veulent faire valider des intuitions, obtenir un second avis ou générer des idées pour accroître leur productivité sans dépenser une fortune. Ce n'est pas toujours facile à faire dans les PME. Et il s'avère que la productivité des entreprises canadiennes est en panne depuis des années. La recherche et développement se demande comment prioriser ses projets en fonction des tendances. Les ressources humaines veulent tester un slogan pour recruter du personnel expérimenté dans une région précise. La publicité se demande quelle photo publier sur Instagram pour faire grimper l'intérêt des adolescents montréalais pour un produit. L'IA peut certainement les aider. Oui, on dirait de la science-fiction. Et je suis la première à me demander à quel point une entreprise va réellement faire confiance à des personnes synthétiques pour prendre des décisions. Surtout quand d'importantes sommes d'argent sont en jeu. Mais à bien y penser, quand on se fie à des humains en chair et en os, ce n'est pas toujours heureux. J'ai soumis la dernière publicité de fonds d'action à ChatGPT. Comme l'a rapporté ma collègue Camille Dauphiné-Pelletier, les deux images de gâteau ne représentent pas une hausse de 30 % comme le dit la publicité, mais bien de 50 %. Devinez quoi? L'IA a immédiatement vu la grossière erreur que personne dans toute la chaîne de décision et d'exécution de la publicité n'a détectée. Ça remet les choses en perspective, non? Et quand on regarde la quantité de nouveaux produits vendus en épicerie qui ont disparu après un an faute d'intérêt des clients, on constate que la recherche marketing est loin d'être une science exacte, même quand on questionne des humains de bonne foi. Tout le monde a des biais, pas seulement l'IA. Il faut toutefois garder la tête froide. Comme le reconnaissent ses créateurs eux-mêmes, si le synthétique se base sur du synthétique, ça ne donne absolument rien. Il faut continuer d'alimenter le modèle avec de vraies données provenant des humains. La qualité des données sur lesquelles l'IA s'entraîne fera toujours la différence. Il faut aussi se donner des règles éthiques pour éviter les dérapages. Et être conscient que si l'IA peut détecter une erreur de calcul, sa responsabilité est inexistante. Les personnes synthétiques ne répondront jamais aux employés, aux clients, aux banquiers, aux fournisseurs ou aux actionnaires mécontents. C'était « L'ère des personnes synthétiques est commencée », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 19 février 2026, dans la presse.
Lettre à toi qui prend soin d'un proche. Un texte de Yara El-Souedi, paru le 27 octobre 2025 dans le magazine Urbania. À toi qui emportes tant sur tes épaules, souvent sans qu'on le voie. On se connaît déjà. Je t'ai croisé l'autre jour dans un café tout près d'ici. Assis à la table à côté de moi, tu disais que tu étais fatigué, mais que tu ne pouvais pas t'arrêter. Peut-être fais-tu partie de ceux et celles qui en font beaucoup pour les autres? Ça m'a rappelé une amie qui ne pouvait pas sortir avec nous après nos cours à l'université il y a 10 ans. Les excuses ne manquaient pas. Elle devait préparer le souper. Elle devait faire du ménage. Elle devait aller chercher sa petite sœur à l'école. Elle devait. Et moi, je me demandais pourquoi elle devait faire tout ça. J'ai appris plus tard qu'elle devait aider sa mère malade. Bref, elle passait beaucoup de temps à aider sa famille en s'oubliant un peu, elle-même, par moments. Peut-être que tu te reconnais dans son engagement silencieux auprès de ses proches. Peut-être te trouves-tu, toi aussi, dans une situation qui t'a amené, malgré toi, à développer un sens aigu des responsabilités. J'admire beaucoup ta maturité et ta résilience. Mais il se peut que, toi aussi, tu aies une charge mentale que les autres ne voient pas. Pourtant, tu te gardes une petite gêne en te disant que ce qui se passe chez toi, ça ne concerne que toi. De toute façon, qui pourrait comprendre la situation? Laisse-moi t'arrêter. Je te vois fatigué et stressé, comme mon ami l'était. Et je veux t'aider, toi qui aides les autres. Je veux te donner les mots pour dire ce que tu vis. Définir ce qu'est une personne proche aidante. Lorsqu'on pense à une personne proche aidante, on pense souvent à un scénario bien précis. Une personne qui prend soin jour après jour d'un membre de sa famille vieillissant en perte d'autonomie. Mais la proche aidance, ce n'est pas nécessairement ça. Ce scénario typique n'est qu'un exemple parmi d'autres, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ont du mal à reconnaître leur statut de personne proche aidante. Cela dit, je dois te l'accorder, c'est difficile de se reconnaître comme une personne proche aidante. Les profils sont diversifiés et changent selon la situation de la personne aidée. Dans certains cas, ce n'est qu'une situation temporaire qui demande de faire des tâches ménagères pour une personne qui ne peut pas les accomplir elle-même. Dans d'autres, il s'agit d'une aide plus permanente qui requiert de répondre à des besoins essentiels, nourriture, soins d'hygiène, etc. Et pas besoin d'être présent 24 heures sur 24. L'aide ponctuelle compte aussi. N'importe qui peut être la personne proche aidante de quelqu'un d'autre, un voisin, un ami, un cousin même. Ce n'est pas que la famille proche qui est concernée. Quelques chiffres. Voici un chiffre qui parle fort. Au Québec, environ une personne sur quatre, âgée de 15 ans ou plus, est proche aidante. De ce nombre, près de la moitié passe d'une à trois heures par semaine à aider quelqu'un de son entourage et près d'une sur trois le ferait 10 heures et plus par semaine. Par ailleurs, les personnes proches aidantes sont majoritairement des femmes. Tu me diras que, bien que ces données aient de quoi déstabiliser, tu ne t'y reconnais toujours pas. C'était la même chose pour mon amie. Elle faisait juste des emplettes trois fois par semaine à la sortie des cours pour aider sa mère. Parfois, elle l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et certains jours, elle lui tenait compagnie et l'encourageait dans ses épreuves. Pour elle, ça allait de soi. Elle voulait être présente pour sa mère comme celle-ci l'avait été pour elle dans son enfance. Et si je te disais que le transport était considéré comme une tâche de proche aidance. Tout d'un coup, c'est plus clair, non? Être une personne proche aidante, c'est aussi aider quelqu'un à faire son épicerie, l'emmener à ses rendez-vous, lui tenir compagnie, nettoyer sa maison, le tout sans être rémunéré en retour. Penser à soi pour mieux aider les autres. C'est difficile de s'avouer qu'on a besoin d'aide et encore plus d'aller en chercher. C'est difficile de s'avouer qu'on doit prendre soin de soi pour pouvoir aider les autres. Je le sais, je suis pareil. Mais je veux prendre un moment et te dire qu'au Québec, des ressources, il y en a plein. D'abord, sache que divers services existent. La ligne Info aidant de l'appui 1-855-852-7784. pour t'écouter et te soutenir. Cap Santé Mentale et Proche Aidance Québec pour te faire connaître différents organismes communautaires, la mesure d'assistance du curateur public, des services de répit et des formations gratuites. Tu pourrais aussi avoir droit à du soutien financier, comme des crédits d'impôt pour les personnes proches aidantes. Tu vois? Plusieurs ressources pourraient te permettre de prendre soin de toi et de souffler. Parce qu'on le sait, s'occuper de quelqu'un a un impact direct sur toi et tes proches. Pour toi qui prends soin d'un proche. Si j'avais lu cette lettre il y a 10 ans, ça m'aurait sans doute aidé à comprendre que mon ami était en fait une personne proche aidante. À la suite de ça, je lui aurais recommandé de prendre du temps pour elle et de demander de l'aide. Finalement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Son emploi du temps a fait en sorte que nous nous sommes perdus de vue. Je ne veux pas que tu te perdes toi aussi. Je veux que tu prennes soin de toi. C'était « Lettre à toi qui prend soin d'un proche », un texte de Yara El Souidi, paru le 27 octobre 2025 dans le magazine Urbania.
Voici les services de santé à connaître avant d'aller à l'urgence. Un texte publié le 9 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. Quand on est malade ou qu'un proche a un souci de santé, on peut avoir le réflexe de se rendre à l'urgence. Pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure option en fonction de son besoin et surtout, ce n'est parfois pas nécessaire. En effet, plusieurs services existent pour orienter les citoyens vers le bon professionnel au bon moment et éviter les longues attentes. Voici des ressources utiles que tout citoyen devrait connaître. 1. Le 811. Le 811, option 1, n'est pas qu'un numéro général de santé. C'est un service de consultation accessible au bout du fil pour parler à une infirmière, obtenir des recommandations et des conseils et être dirigé vers la bonne ressource au besoin. 2. La ligne pédiatrique d'InfoSanté. Pour les parents, le 811 offre aussi une ligne prioritaire pour les enfants de 0 à 17 ans qui permet de discuter avec une infirmière qui évalue la situation de l'enfant et prodigue des conseils adaptés. Dans de nombreux cas, les maladies courantes comme le rhume, la grippe ou la gastro peuvent être gérées à la maison à l'aide de tels conseils. 3. Les soins à la maison, auto-soins, et les conseils du pharmacien. En saison hivernale, où plusieurs virus circulent, il n'est pas rare que des symptômes comme la fièvre, la toux ou l'écoulement nasal puissent être pris en charge chez vous en suivant les conseils de votre pharmacien. Il est souvent le premier professionnel à consulter pour des questions de santé mineure. Celui-ci peut recommander des traitements en vente libre et prodiguer des conseils personnalisés selon l'âge et l'état de santé. 4. Le guichet d'accès à la première ligne, GAP. Le GAP est une ressource destinée aux Québécois et Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille ni d'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Il aide à trouver le service le plus approprié à votre situation. Si votre situation nécessite une évaluation clinique, Vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le GAP numérique ou par téléphone au 811, option 3, afin qu'un intervenant vous rappelle pour vous guider vers le service adéquat. Connaître ces ressources permet de recevoir des soins adaptés plus rapidement. Un simple appel au 811, une consultation des conseils disponibles sur le site du gouvernement du Québec ou une visite chez le pharmacien peut souvent suffire à régler la situation. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. C'était « Voici les services de santé à connaître avant d'aller à l'urgence ». Un texte publié le 9 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
Le vrai podium, un texte d'Alain Rey publié dans la presse du 26 février 2026. Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina sont maintenant terminés. On regarde le tableau des médailles, on compare et analyse une récolte de médailles en deçà des attentes. Et des questions sont sur toutes les lèvres. Appuyons-nous assez nos athlètes de haut niveau? Et devrions-nous, comme pays, investir plus d'argent pour que le Canada puisse remporter plus de médailles olympiques? Dans son éditorial de mardi, Stéphanie Grandmont a mis en évidence que le sous-financement chronique des organismes nationaux de sport est au cœur du problème. Elle a souligné que le gouvernement fédéral n'a pas augmenté son budget de base depuis 2005. Pendant ce temps-là, la Norvège s'est imposée comme l'exemple frappant des récents Jeux d'hiver. Petit pays, grande récolte. La semaine dernière, Pierre Lavoie a livré sur les réseaux sociaux une riche réflexion et dans sa publication, il y avait une phrase forte, citation, « Le secret de la Norvège, ce ne sont pas les podiums, c'est l'enfance. » Fin de citation. Tout est là. On pourrait être tenté de conclure qu'il suffit d'augmenter les budgets du sport de haut niveau pour obtenir plus de médailles. Pourtant, les pays qui performent durablement, comme la Norvège, ont en commun bien plus qu'un financement olympique musclé. Ils ont bâti une culture du mouvement ancrée dès l'école primaire et soutenue par des infrastructures accessibles à tous. Et c'est ici que le débat devient intéressant. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas des contribuables distincts pour alimenter tour à tour les gouvernements municipal, provincial et fédéral. Quand Ottawa finance l'élite, quand Québec soutient les fédérations, quand une ville construit un centre sportif ou qu'un centre de service scolaire modernise un gymnase ou un parc-école, c'est toujours le même portefeuille collectif qui paye, celui que chacun d'entre nous garnit, avec taxes et impôts. Comme ancien maire, j'ai vu les arbitrages budgétaires de près. Une rue à refaire ou un terrain synthétique? Un centre communautaire, une salle d'art ou un aréna? On donne une subvention à qui et combien pour les soutenir dans leur mission? Trop souvent, l'infrastructure sportive est perçue comme un luxe. Pourtant, c'est peut-être parmi les investissements les plus structurants. On parle beaucoup de médailles et trop peu de santé publique. Et sans cadre national clair reliant sport, éducation et santé publique, beaucoup de décisions reposent sur les épaules des élus locaux qui, eux, sont sous la pression continuelle de l'ordre du jour électoral. On gère à court terme. Entre des nids de poules à réparer et une patinoire extérieure à maintenir. tant qu'on ne reconnaîtra pas collectivement que les infrastructures sportives et de loisirs font partie d'une véritable stratégie de prévention en santé, elles resteront en concurrence avec l'urgence du quotidien plutôt qu'intégrées à une vision d'ensemble. L'inactivité physique coûte des milliards au système de santé canadien chaque année. Les maladies cardiovasculaires demeurent parmi les principales causes de décès. Le diabète et le pré-diabète touchent des millions de personnes. La santé mentale des jeunes préoccupe toutes les directions d'école. Et nos aînés, eux, est-ce qu'on s'en occupe bien? Quand une municipalité aménage des sentiers, des piscines ou des plateaux sportifs, ce n'est pas seulement pour former le prochain Olympien, c'est pour que des milliers d'enfants découvrent le plaisir de bouger. C'est pour qu'un parent décide d'aller marcher plutôt que de rester sédentaire. C'est pour qu'un adolescent laisse de côté pendant un moment son écran et trouve l'équilibre. C'est aussi pour que nos aînés puissent demeurer actifs, préserver leur autonomie et briser l'isolement grâce à des installations adaptées. Comme sportif amateur, j'ai appris une chose simple. La performance est une conséquence. On ne termine pas un Ironman, un marathon ou un 10 km parce qu'on vise un podium. On le termine parce qu'on a construit, année après année, une discipline et une culture du mouvement. Parce que notre santé est importante. Parce qu'aucun gouvernement ou médecin n'est mieux placé que soi-même pour prendre soin de soi. La Norvège n'est peut-être que l'exemple le plus visible. Mais le vrai modèle commun aux pays qui réussissent est ailleurs. Ils investissent dans la base avant d'investir dans le sommet. Alors, faut-il aider davantage nos athlètes olympiques? Sans doute. Mais si nous voulons vraiment nous inspirer des meilleurs, investissons d'abord, ensemble, municipalités, écoles, Québec et Ottawa, dans des infrastructures accessibles, durables et intégrées. Pensons le sport et les saines habitudes de vie comme une politique de santé publique, pas seulement comme une stratégie vers plus de médailles. La vraie question n'est pas de savoir combien de podiums nous voulons célébrer tous les 4 ans. La vraie question est, voulons-nous compter des médailles ou compter des citoyens en santé? Et c'est avec cette question qu'Alain Rey termine ce billet qu'il a titré « Le vrai podium », publié dans la presse du 26 février 2026.